On va commencer aujourd'hui une petite série sur un thème, sur des thèmes. Le thème, ce sont les combats de la vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme dit le nom du film. Et nous avons tous à mener des luttes dans notre vie. Et on va, dans les semaines à venir, les dimanches, on va considérer certaines de ces combats. Aujourd'hui, on va voir un peu comment faire face à nos peurs, justement. Comment réagir devant nos peurs. Encore une fois, en tant que chrétien, on a un avantage sur les non-chrétiens, c'est qu'on a un Dieu puissant, un Dieu qui peut nous sortir de toutes les situations, un Dieu qui peut nous éviter de nous fourvoyer, de tomber dans des mauvaises situations, d'être là au mauvais moment, au mauvais endroit. Voilà. Donc on va commencer cette série des combats de la vie en parlant un peu du combat contre la peur. On va prier et on va commencer à parler un peu de la peur. Vous êtes prêts pour ça? Seigneur, merci parce que tu dis dans ta parole 366 fois, n'ayez pas peur, ne craignez rien, ne soyez pas paralysés par l'angoisse, par la peur des risques, des dangers de la vie. Seigneur, nous réalisons que nous sommes des êtres faibles. Et Seigneur, vraiment, quand on y réfléchit bien, à chaque instant, à chaque heure, nous avons besoin de toi. Besoin de toi pour ta provision, ta providence. Besoin de toi pour ta protection. Besoin de toi pour la sagesse. Besoin de toi pour nos décisions. Seigneur, c'est bien volontiers que nous reconnaissons cette faiblesse, Seigneur. Même quand tout va bien, que nous nous sentons en bonne santé, en pleine forme, Seigneur, un rien peut nous mettre à plat, Seigneur. Que ce soit justement un revers de fortune, une maladie, un accident, un revers de fortune, la perte d'un travail, la perte d'un être cher. Et Seigneur, nous voulons humblement reconnaître que c'est toi le roi, c'est toi le souverain, et nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Et en même temps, Seigneur, c'est un réconfort formidable de pouvoir nous tourner vers toi dans la repentance et dans le repentir quotidien, Seigneur, de venir à toi pour te demander ton aide, pour te demander pardon d'abord de nos péchés, et avec ton aide, Seigneur, de nous tourner et de marcher avec toi. Seigneur, nous l'avons évoqué le dimanche après l'attentat à Nice, Seigneur, nous avons dit que la question, ce n'était pas de savoir pourquoi ça s'était passé ainsi. La vraie question, c'était de savoir vers qui nous nous tournons lorsque de tragédies arrivent, Seigneur. Tu nous invites à nous tourner vers toi dans la repentance et à marcher avec toi. Seigneur, éclaire-nous sur ce sujet de la peur. Donne-nous ta paix qui dépasse l'entendement, Seigneur. Parce que tu nous dis que si nous intercédons les uns pour les autres, si nous te demandons des requêtes, si nous te disons merci dans une attitude de gratitude, Seigneur, alors, quelle que soit la situation, tu nous donnes cette paix qui dépasse l'intelligence. Seigneur, nous avons le désir d'être dans la paix, pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour que ceux qui sont dans l'agitation, dans la peur, dans l'angoisse, voient que tu nous procures cette paix et qu'ils aient soif de venir à toi. Sois béni, Seigneur, sois glorifié ce matin dans nos cœurs, par ta parole et ton Esprit Saint qui l'ouvre à nos cœurs. Nous prions ces choses dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Qu'est-ce que la peur ? La peur, c'est un sentiment désagréable, pour commencer. Ce n'est pas quelque chose qu'on recherche. En se disant « chouette, je vais avoir un peu peur ». On aime bien quand même se faire peur quand on sait que ça ne va pas aller trop loin. C'est pour ça qu'il y a des montagnes russes. Les gens montent. Mais normalement, le chariot reste accroché aux rails. Il y a des accidents. On aime bien sauter de très haut dans les canyons de la Provence en criant très fort. Normalement, ça se passe bien. Moi, j'ai vécu une expérience qui s'est mal terminée. J'ai crié, mais après j'ai crié de douleur. Mais c'est un sentiment désagréable de menace, un sentiment qui nous avertit d'un danger. Un danger réel ou imaginaire. Un sentiment d'être menacé par quelque chose à tort ou à raison. Est-ce que la peur est une bonne ou mauvaise chose? Ça dépend de quelle peur on parle. Vous savez tous qu'il y a une bonne peur, c'est la peur de l'Éternel. Ce n'est pas une peur servile, une peur où on se rétracte, on a peur de prendre un coup de la part de Dieu, de l'Éternel, mais c'est une peur de révérence, c'est-à-dire qu'on réalise sa grandeur, on réalise notre petitesse, et devant lui, on a un sentiment de juste valeur relative, ce qui peut se considérer comme étant une peur de l'Éternel. Et les proverbes parlent beaucoup de cela, disent même que c'est le commencement de la sagesse. La sagesse, c'est de réaliser qu'il est très grand et on est tout petit. Et que lui, c'est le maître, c'est le souverain et que nous ne le sommes pas. Et donc, un des grands combats de la vie, c'est de lutter contre la peur, contre les peurs, les autres peurs, qui sont des mauvaises peurs. Elles peuvent avoir je devrais qualifier, il y a des peurs quand on ne laisse pas un enfant jouer dans la rue parce qu'on a peur qu'il se fasse renverser par une voiture. C'est une bonne peur. Mais il y a aussi, j'ai évoqué cette idée qu'on peut être rempli et paralysé par des peurs et qu'en fait, ces événements dont nous avons peur ne vont jamais se réaliser. Statistiquement, pour l'instant, à moins que ça empire beaucoup, on n'a pas de raison d'avoir peur qu'un terroriste rentre ici avec une Kalachnikov. Peut-être que ça peut arriver, mais je vous encourage à continuer de venir au culte. Si vous avez peur, peut-être on mettra une porte blindée et on donnera une arme à Xavier. Mais la plupart du temps, les peurs sont pas justifiées vraiment. Quelles sont vos peurs pour l'avenir? Les peurs, on a rarement peur pour les choses qui sont passées parce qu'elles sont arrivées. On souhaiterait peut-être qu'elles ne se soient pas passées ainsi. Mais c'est dans l'avenir souvent. Et quelques peurs communes, c'est les peurs de la guerre, du terrorisme, du nationalisme. Ça peut être la peur de l'intégrisme radical, que ce soit des musulmans, des djihadistes ou d'autres religions. pendant les croisades, c'était la guerre qui était faite au nom de Dieu, qui aurait pu susciter la peur de ceux qui n'étaient pas, entre guillemets, chrétiens. Ça peut être les cataclysmes naturels. Le réchauffement climatique, il y a eu des inondations au mois de juin dans la région parisienne, dans le nord de la France. Ça peut détruire votre maison, détruire toute une vie de travail. Ça peut être la peur de perdre son travail, de se retrouver SDF dans la rue. Et on sait, d'après ce qu'on voit autour de nous, que ça peut arriver très vite. Quelqu'un peut avoir un travail, une vie de famille, être bien, bien à l'abri des vicissitudes du monde, mais il suffit de perdre son travail parce que la boîte ne trouve plus de débouchés. Votre épouse vous divorce parce que vous devenez insupportable ou vous n'avez pas de quoi la pourvoir aux besoins de la famille après que l'aide sociale s'épuise et vous retrouvez SDF dans la rue. Pendant la randonnée qu'on a faite, on a dormi 6 nuits. 2 nuits, on a dormi dans un gîte. Dans un vrai lit. C'était vraiment agréable. Parce que les autres fois, on a dormi par terre, sur une place de marché, sur du béton. On a dormi sous un préau d'école. On a dormi à la Belle Étoile plusieurs fois. C'est très beau de voir les étoiles quand il n'y a pas la pollution lumineuse. On a vu un splendide satellite qui traversait l'espace. C'était la station spatiale. Mais ce qui fait peur quand on est SDF, c'est pas tellement avoir à dormir par terre, c'est faisable, c'est les attaques, c'est les vols, c'est les dangers que représentent les autres personnes autour de nous qui sont dans la précarité ou dans la violence. Il y a les peurs de tomber malade. Malheureusement, certains vivent ce genre d'épreuve. Et on est dans un monde où il semble que c'est pas est-ce qu'on va tomber malade, mais parce qu'on vit de plus en plus tard dans la vie, quand est-ce que je vais tomber malade gravement? Donc toutes ces peurs, il y avait la peur du sida, toutes ces peurs, ça fait un petit paquet quand même. Ça fait un petit boulet. La question, encore une fois, c'est la même chose que lorsqu'on disait la question, c'est pas pourquoi, mais vers qui on se tourne face lorsqu'on est confronté à ses peurs. Est-ce que vous vous tournez vers le changement social et politique? Et vous vous dites, ça marche pas encore très bien, mais les prochaines élections, on va avoir un gouvernement top et ils vont régler tous nos problèmes. Ou alors, est-ce que vous pensez que c'est le développement des sciences et des techniques? On va avoir des caméras de surveillance de partout. On va avoir des drones qui survoleront les entrées des lieux de culte et rapporteront tout de suite au préfet qu'il y a quelque chose de louche qui se passe. On peut placer nos espoirs dans ces développements techniques. Ou alors vous pensez que ça va être la solidarité entre les hommes, l'égalité. D'autres placent leur confiance pour faire face à ces peurs dans le changement personnel. Il y a des dangers d'être attaqué dans la rue. Je vais prendre des cours de jiu-jitsu, de judo, de karaté. J'ai oublié le nom de cette... C'est ça. Krav Maga, oui, c'est la technique israélienne de défense qui s'apprend assez rapidement et qui est redoutable, paraît-il. J'ai pas essayé. D'autres pensent qu'il n'y a pas d'autre solution que de vivre au jour le jour. Si ça me tombe dessus, ça me tombe dessus. C'est un peu comme quand on voit ces films sur la nature. Et on voit par exemple des bancs de petits poissons qui se déplacent comme une nuée d'oiseaux. Et puis arrivent les requins ou les dauphins qui tapent dedans le banc de poissons. Il y en a qui se font prendre, tant pis pour eux. Puis les autres, ils se serrent encore en plus près du milieu, mais ils ne sont pas à l'abri non plus. Et donc, on peut dire, bon, ben, il n'y a pas d'autre solution que de vivre au jour le jour. D'autres disent, il n'y a pas de solution. D'autres disent, il faut reconnaître un être supérieur. C'est les païens qui ne veulent pas admettre qu'ils ont un besoin d'un Dieu parce qu'ils réalisent en fait leur faiblesse. Ils sont en chemin, je crois. La reconnaissance d'un être supérieur. Ou alors vous pensez que la vraie solution, c'est la venue du royaume de Dieu annoncé par Jésus-Christ. Personnellement, c'est ma conviction. Tant qu'il n'y aura pas le prince de paix, nous aurons toujours des menaces et des peurs. Ce qui est intéressant, c'est de réaliser que la peur est une des grandes motivations dans notre vie. Même si on ne veut pas le reconnaître, mais je vous invite à essayer, peut-être pas tout de suite, on va pas vous laisser trop de temps pour le faire, mais de réaliser pourquoi vous faites certaines choses et pas d'autres. Des fois, ça peut être positivement inspiré par l'amour de l'autre. Des fois, ça peut être inspiré par la peur de l'autre, par la peur des hommes. La chose remarquable, c'est que la peur, elle est liée à beaucoup de nos émotions. La concupiscence ou le désir d'avoir plus, d'avoir toujours plus, c'est inspiré par la peur de manquer, de ne pas avoir assez. Le sentiment, l'émotion de se sentir rejeté, c'est la peur de ne pas être accepté. Le sentiment de culpabilité, c'est la peur d'être découvert. Le manque de confiance en soi, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Et ainsi de suite, on peut regarder toutes nos émotions fortes. À la base, il y a souvent un aspect de la peur. Quelles sont les causes de la peur ? J'ai évoqué le fait que c'est souvent notre imagination. On n'a pas le temps, j'aurais dû passer l'enregistrement de la blague de Bigard, ce comédien, qui parle de la peur des chauves-souris. Et il a lu quelque part qu'en en Amérique du Sud, il y avait des gros chauves-souris qui pouvaient mordre les hommes et les tuer. Et il commence à raconter qu'il y a ces chauves-souris qui sont en Amérique du Sud, et il dit que ça lui fout les jetons. Ça lui inspire la plus grande peur. Il dit parce que ces chauves-souris, admettons qu'elles rentrent à l'intérieur d'un bateau, et puis que le bateau y rejoigne le Havre. C'est pas impossible après tout. Et dans son imagination, il continue à penser qu'en fait, ces chauves-souris, elles pourraient bien se rapprocher de Paris en prenant le car et arriver et chercher son adresse. Mais on voit comment son imagination, à la fin, il est persuadé qu'il y a une chauve-souris qui va sonner à la porte de son appartement, même si c'est au dernier étage. Il se convainc lui-même par son imagination très vive et très, très fructueuse qu'il va mourir mordu par une de ces gros chauves-souris. Et c'est un bon exemple, très, très drôle et très bien fait. C'est sans doute le meilleur sketch de ce comédien. Parce que d'abord, il n'est pas vulgaire. Et ensuite, il joue avec cette façon dont nous imaginons des choses qui n'ont aucune probabilité d'arriver. La peur peut être causée par nos péchés, parce qu'on sait qu'il y a des conséquences à nos péchés, des conséquences fâcheuses. Ça peut être dû à une ignorance, ça peut être dû à des doutes, ça peut être dû à une mauvaise idée que l'on se fait de Dieu. Si on imagine que Dieu est un Dieu sanguinaire qui est là pour nous, qui attend qu'on fasse la moindre faute pour nous punir. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce sentiment, il est tout à fait humain. On le sait tous. Et dans la Bible, on voit beaucoup de personnes qui ont vécu avec la peur, mais qui ont confronté cette peur. Et aujourd'hui, on va pour illustrer cette façon de confronter nos peurs, on va regarder le psaume 27 de David. Si vous voulez vous y tourner, psaume 27, on va lire ensemble. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel, verset 4, une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Déjà, verset 6, ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Verset 7, Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, recherche-moi, je te recherche, Éternel. Ne me cache pas ton visage, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins s'attaquent à moi, des hommes qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants, pardon, verset 14 et dernier verset de ce psaume, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Pour David, c'est évident, c'est Dieu qui est la solution à ses peurs. Dans ce passage, on voit plus ou moins deux peurs auxquelles David devait faire face. C'était la peur du noir, la peur de la mort et la peur d'être rejeté. Et souvent, nos peurs, c'est un peu un dosage de ces trois peurs fondamentales. Quand nous, pour les enfants en bas âge, ou même des fois un peu plus âgés, jusqu'à l'adolescence, des fois presque, les enfants ont peur du noir la nuit. C'est pour ça qu'on met des petites loupiottes, des petites veilleuses, pour qu'ils voient en fait qu'il n'y a pas de monstres cachés sur leur lit ou qui viennent les attaquer dans leur chambre. On dit qu'en fait 2/3 des enfants souffrent de cette peur du noir. David, il dit, l'Éternel est ma lumière. Il est plus que la veilleuse, il éclaire toutes choses et il est son salut. Et il dit, puisque Dieu est ma lumière, qu'il éclaire tout ce que je vis et qu'il est celui qui m'apporte la sécurité d'être pour toujours avec lui, le salut. En fait, j'ai vraiment rien à craindre. Il va montrer plusieurs choses. Nous, aujourd'hui, on dirait, si Jésus est ma lumière, si l'Éternel est ma lumière, si Jésus est mon salut, si l'Éternel est mon salut, de qui aurais-je crainte? Même un djihadiste ivre de sang, je n'ai pas à avoir peur de lui. Alors c'est facile à dire, hein, quand on pense que Xavier fait le service d'ordre derrière. Mais on a vu ces reportages de chrétiens qui se font massacrer par Daesh de la façon horrible, d'un égorgement au couteau. Ce qui, c'est pas le genre de vidéo à rechercher et à trouver, à visionner en boucle. Mais si vous avez vu des extraits de ces choses, on voit que ce qui les caractérisait, c'était une espèce de paix. On dit que les porcs, les cochons, lorsqu'on va les égorger ou les abattre, ils se débattent, ils font des cris, ils rouspètent, à juste titre. Par contre, les agneaux, ils se laissent mener à l'abattoir comme Jésus-Christ a été à la croix sans rien dire. Il dit au verset 2, « Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et tombent. » Il a peur d'être attaqué physiquement et aussi par ce mal ambiant qui est comme un noir de morale. Nous vivons dans une époque où pour la plupart, les gens vivent dans l'obscurité. Et c'est une occasion pour nous de briller dans l'obscurité, d'être différents des autres. L'obscurité, c'est un phénomène intéressant parce que dès que la lumière arrive, l'obscurité, elle s'en va. Si vous rentrez dans une pièce, une chambre, dans le noir, et que vous appuyez sur l'interrupteur, que la lumière se met en marche, l'obscurité s'en va. Où est-ce qu'elle se cache? Est-ce qu'elle se cache sous le lit? Ou est-ce qu'elle rentre dans la prise électrique pour ressortir dès que on aura éteint l'interrupteur? Il y a ce noir moral qui est une obscurité qui pèse sur notre monde. On regarde les informations, les nouvelles, Et il n'y a pas de très bonnes nouvelles en général. On parle de guerre, de révolution, de coup d'État, de dérèglement climatique. David, lui, vous savez qu'il avait été... s'était mis au service du roi Saül, mais que le roi Saül ayant failli moralement, tombé dans le péché de plusieurs façons, David avait été appelé par le prophète Samuel à devenir le futur roi d'Israël. Et donc, lorsque le roi Saül a su que David avait des ambitions sur le trône, il a commencé à le poursuivre comme un fugitif. Et donc, David avait vraiment peur d'être attaqué physiquement. Il était toujours sur le qui-vive. Un peu comme ces écrivains, comme Shalman, comment il s'appelle, Rudy ? Cet écrivain qui a écrit les versets coraniques, les versets sataniques plutôt. Il y a une chatia contre lui, une charia, une fatwa. Une décision qu'on doit... si vous le mettez à mort, vous aurez accès immédiat au paradis. Et il vit dans la peur constante d'être repéré. Beaucoup de personnes parmi nous, surtout les plus jeunes et les personnes âgées, ont peur d'être agressées physiquement, voire sexuellement. On a malheureusement, on connaît des voisins, des personnes plutôt âgées, passées la cinquantaine, la soixantaine, qui se sont fait voler leur sac à main et les voleurs les ont fait tomber par terre, se sont retrouvés avec le bras cassé, le bras en écharpe pendant 3 mois ou plus, avec de la rééducation. La peur du mal physique, c'est une réalité que certains vivent malheureusement. Verset 3, si une armée se campait contre moi, si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Là, on ne parle pas d'un ou deux terroristes, on parle de toute une armée. Alors, c'était vrai qu'il était appelé à devenir roi, donc lui, il envisageait toute une armée qui venait contre lui. Il dit, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Il a cette peur du noir physique et moral, mais il a confiance en Dieu. C'est ce qu'il dit au verset 4. Il dit, je demande à l'Éternel une douzaine de choses. Je voudrais avoir une voiture qui tient bien la route. Une villa avec piscine, un bon job avec un travail intéressant, où je voyage beaucoup. Non, il dit, je demande une seule chose. Et il nous invite par là même à nous aussi ne chercher vraiment qu'une seule chose. Jésus nous disait, ne vous faites pas de soucis pour ce que vous allez manger ou ce que vous allez mettre comme vêtement. Il dit, les oiseaux du ciel... ils n'ont pas de plan pour semer des graines, les labourer des terrains. Et pourtant, ils sont toujours dans la confiance. Et j'aime bien dire qu'en fait, j'ai déjà vu des oiseaux morts parce qu'ils ont été attrapés par un chat. J'ai même vu des oiseaux qui pendaient les pattes recroquevillées sur un fil électrique qui les avait électrocutés. Des oiseaux zappés par l'électricité. Mais je n'ai jamais vu un oiseau mort de faim. Alors ils travaillent, ils recherchent leur nourriture constamment, mais ils ne meurent pas de faim. Il dit aussi, les vêtements, regardez les fleurs des champs. Même lorsque Salomon était au sommet de sa gloire, au summum de sa gloire, et qu'il portait les vêtements les plus chers qu'on pouvait trouver dans le royaume entier, il n'était pas aussi bien vêtu que les petites fleurs des champs. Et pendant cette semaine de randonnée, on a parcouru 50 kilomètres ou 60 km au total. Et on a vu des fleurs splendides, des petites fleurs qui rouges fluorescents, des lavandes violet intense, des chardons avec des fleurs bleues foncées. Elles sont là pour le plaisir de Dieu, parce que, à part quelques randonneurs qui les rencontrent comme ça par hasard, elles ne sont pas destinées à être vendues, mais elles sont vêtues. Et Dieu, Jésus nous dit, ne vous faites pas de soucis. Votre Père qui est dans les cieux sait ce dont vous avez besoin. C'est lui qui va vous assurer le couvert, qui va vous assurer le logis, qui va vous assurer tout ce dont on a besoin. Mais, que dit Jésus, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces autres choses vous seront données en plus. Là, c'est la même façon. David, il dit, je ne cherche qu'une chose et je la recherche ardemment. Ou je la recherche, oui, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Il veut une intimité avec Dieu. À l'époque, on pensait que, et le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné à tous les croyants, donc la présence de Dieu, elle était particulièrement vive dans le tabernacle ou dans le temple. Et David disait, en fait, moi, il n'y a qu'une chose que je demande, c'est d'être là où est Dieu, près de lui. Est-ce que c'est ce que nous faisons, nous aussi ? Il veut habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté incroyable, la magnificence, il est dit dans certaines versions, et pour admirer son temple, pour admirer là où il habite. Et ça, c'est une bonne place de refuge que de chercher l'intimité avec Dieu lui-même, avec Jésus-Christ. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Si je cherche l'intimité avec Dieu, il va vraiment me protéger. Il va me cacher pour pas que l'ennemi me trouve. Il va me mettre sur un rocher où je ne vais pas m'enfoncer les pieds dans des sables mouvants, des sables sur lesquels il n'est pas bon de construire une maison. Il va me protéger au jour du malheur. C'est un peu triste qu'ils ne disent pas, si jamais il vous arrive quelque chose, il vous protégera. Il parle du jour du malheur comme quelque chose qui, et nous le savons tous, tôt ou tard, nous allons avoir des épreuves, que ce soit dans notre santé, dans la perte d'êtres chers, dans des difficultés de toutes sortes. Pourquoi ? Parce que nous vivons dans un monde déchu, qui a été contaminé par le péché. Et puis il dit, « Déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent, j'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. » C'est un bon endroit de refuge que d'être près de Dieu, parce qu'il est lumière et que toute l'obscurité du péché, des attaques de nos ennemis, Elle est chassée par cette lumière et par la protection de Dieu. Une deuxième peur qui est commune à l'homme, après cette peur du noir, que ce soit le noir physique ou moral, c'est la peur de la mort. Tous, tôt ou tard, nous aurons à confronter la mort face à face. Dans Hébreux 2, il est dit, verset 14, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi Jésus-Christ, d'une manière semblable, y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. » Hébreux 2, 14, 15. La peur de la mort, ça peut être une puissance paralysante, une force qui nous paralyse. Le diable, il se spécialise dans le domaine de la peur. Il aime bien terroriser, comme les terroristes, tourmenter avec des peurs de toutes sortes. Et ça marche bien si nous écoutons ce qu'il nous, les mensonges qu'il nous dit à longueur de journée, plutôt que les messages d'amour de Dieu et de Jésus-Christ. Il y a un auteur contemporain qui a dit qu'en fait, le diable veut nous faire vivre dans la maison de la peur, alors que Jésus et Dieu veulent nous faire vivre dans la maison de l'amour. Dans 1 Corinthiens 15, 54, il y a cette phrase qui dit que, parlant de la mort, que lorsque notre corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nos corps vieillissent. On aimerait bien rester jeune, peut-être 25, peut-être 30 ans, suivant les personnes. Pour le reste de notre vie, malheureusement, notre corps se relâche. Notre corps se corrompt. On dit que dès qu'on est né, on commence à perdre des cellules. On dit qu'en fait, au bout de 7 ans, vous n'êtes plus la même personne, dans le sens où toutes vos cellules ont été remplacées par d'autres nouvelles cellules qui n'existaient pas 7 ans plus tôt. Donc pour les gens qui me connaissent depuis plus de 7 ans, je suis le nouveau Pierre. Notre corps se corrompt, mais il dit lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, c'est-à-dire une fois qu'en tant que chrétien on sera passé par la mort, on aura un corps éternel. Alors je ne sais pas si Dieu nous demandera à quel âge tu veux revenir. Est-ce qu'on peut demander à Dieu de revenir et d'être un bébé pour l'éternité? Ou un adulte dans la force de l'âge? Ou une personne plus mûre? Peu importe, parce que notre félicité ne dépendra pas de nos rapports avec les autres, elle sera absorbée par notre communion avec Dieu. Mais il dit, la mort a été, lorsque ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, qu'est-ce que c'est que ça? Il nous le dit tout de suite après, il dit « L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. » C'est la loi qui nous montre que nous sommes des pécheurs, et que nous avons besoin de quelqu'un pour nous sauver parce que nous n'y arrivons pas tout seuls. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, dans le sens où l'aiguillon, ça peut être l'enfer, le jugement et la damnation éternelle. Nous allons devoir comparaître devant Dieu, et si nous arrivons devant Dieu dans une situation de pécheur, sans avoir accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur qui a porté nos péchés à la croix, à ce moment-là, nous pouvons nous attendre à l'aiguillon, au jugement terrible d'une éternité sans Dieu. Après la mort, nous allons continuer de vivre. Et il y a la vie éternelle. Soit on est avec Dieu, soit on est éloigné de Dieu. C'est ce que la Bible appelle l'enfer. Jésus en parle comme d'un lieu réel. Jésus a retiré l'aiguillon de la mort parce qu'il est ressuscité et que nous n'avons plus à passer par cette terrible épreuve éternelle que d'être séparés de Dieu. En tant que croyant, je n'ai plus à craindre la mort, car ce n'est qu'une porte d'entrée dans une relation plus intime avec Dieu. Éternel, écoute ma voix, verset 7, je t'invoque, fais-moi grâce et réponds-moi. Au verset 9, il parle d'une autre peur qui est la peur d'être rejeté, abandonné. Mon cœur dit de ta part, verset 8, cherche ma face, je cherche ta face, ô Éternel, ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur, tu es mon secours, il n'y en a pas d'autre. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Une des grandes peurs de la vie, après la peur du noir, que ce soit le noir physique ou le noir moral et spirituel, la deuxième peur, c'est la peur de la mort. L'autre peur, c'est la peur d'être rejeté, abandonné. Vous vous souvenez de ce film « Maman, j'ai raté l'avion ». Le petit garçon, il se retrouvait abandonné. C'était une épreuve terrible. Alors, c'était traité sur un style comique. Mais on pense qu'en fait, David, lorsqu'il parle, il parle de façon autobiographique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque Samuel était venu chercher, Dieu lui avait dit qu'il trouverait un successeur au roi Saül parmi un des fils d'Isaïe, de Bethléem. Et le père avait invité tous ses enfants à venir au sacrifice, Eliab, Abinadab, Shama, et ainsi de suite, jusqu'au septième fils. Et Samuel était surpris parce qu'il disait, mais en fait, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux, il ne sentait pas que c'était bon encore. Et il demande, il n'y en a pas encore un autre ? Et à ce moment-là, le père se dit, ah oui, il y a le petit dernier. Oh, lui, il s'occupe des troupeaux. Son père ne pouvait pas croire que cet enfant puisse un jour être un roi parce qu'il avait une mauvaise estime de son fils. Et son fils, il était, pendant que ses frères étaient invités, il était abandonné à ses troupeaux, à ses brebis. Et pourtant, c'était bien lui qui allait être le choix de Dieu. Il y a des personnes qui passent toute leur vie à chercher à être acceptées par leur père ou leur mère, par leurs parents. Pour ça, si vous êtes parents, c'est important d'assurer vos enfants que vous les aimez, que vous les acceptez tels qu'ils sont. Ne pas leur faire sentir un rejet quelconque, quelle que soit leur situation, quelles que soient les épreuves ou les bêtises qu'ils font, toujours les assurer de votre amour et de votre acceptation plutôt. On a peur d'être rejeté. On a peur d'être trahi par un ami, même par un parent, par un époux ou une épouse. C'est une grande souffrance que d'avoir à passer par un divorce ou une trahison dans le couple. Et on dit que souvent, après un divorce, la peur d'être jamais accepté peut être très forte. Jésus, il est le mari de l'Église. L'épouse, c'est l'Église, de façon ultime, après la résurrection. Mais dans ce passage, on voit rapidement trois réponses toutes puissantes à nos peurs. La première, c'est la présence de Dieu. Être toute notre vie en présence de Dieu, vivre, rechercher sa face, être bien dans son temple, entre guillemets. Le temple, ça peut être dans votre cœur, c'est cette assurance que Dieu existe, qu'il vous aime et qu'il vous protège. Dieu est plus grand que tous les mensonges du diable. La deuxième chose pour répondre à notre, pour confronter nos peurs, ce sont les promesses de Dieu. Là, il y a ce petit livre, je ne sais pas si on en a, Daniela, je ne sais pas si on nous en reste. Allez voir Daniela si vous n'avez pas et que vous voulez l'acheter. Le guide personnel des promesses de Dieu, il y a 866 promesses de la parole de Dieu. Et sur la peur, il y a au moins une trentaine de promesses qu'on trouve textuellement dans la parole de Dieu. Et lorsqu'on a ces assurances, on peut, quand on a peur, se rappeler celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, psaume 91. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure, psaume 4-9. Et ainsi de suite. Un des chants qu'on aurait pu chanter ce matin, c'était « Ne crains rien ». C'est un passage d'Ésaïe. « Même lorsque tu seras envahi par le feu ou par les flots, tu ne succomberas pas, car je suis avec toi, dit l'Éternel. » Quelles que soient les circonstances que vous traversez, douloureuses, les promesses de Dieu sont là pour vous rappeler qu'il va vous aider, qu'il va être à vos côtés, que c'est même lui qui va vous porter. La présence de Dieu, les promesses de Dieu, et la troisième réponse à toutes nos peurs, c'est l'amour de Dieu. Jean disait dans 1 Jean 4, 18, « Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. » Cet amour de Dieu, il est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, c'est Romains 5, 5. Paul disait dans Timothée, « Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Ce qui est important de réaliser, c'est que Jésus lui-même, il est le remède à toutes nos peurs. Des gens vont vous offrir des choses pour vous montrer leur amour. Lui, il s'est offert lui-même en sacrifice pour vous montrer son amour. Vous pouvez croire et être assuré qu'il est avec vous. Le danger, c'est que la peur mène au désespoir et à la dépression. Éternel enseignement, on va terminer en lisant Éternel enseigne-moi, verset 11, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes détracteurs. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et ne respirent que la violence. Et puis, verset 13, il exprime l'assurance que la bonté de l'Éternel, on peut la voir même au pays des vivants. Certains pensent que c'est ce côté de l'éternité, de la mort. D'autres pensent que c'est au contraire de l'autre côté. Moi, je suis convaincu que c'est tout le temps. Là où il y a la vie, il y a la bonté de l'Éternel. Et puis, il se motive, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Si Dieu nous dit de nous fortifier et d'espérer en l'Éternel, c'est que c'est possible. Ce n'est pas quelque chose qui est imaginaire ou peu probable. On a une part à jouer. Dieu est là, mais il faut lui tendre la main, espérer en l'Éternel, lui faire confiance, fortifier notre cœur de façon à recevoir cette paix qui dépasse l'entendement et qui nous fait briller comme des lumières dans les ténèbres qui nous entourent. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce qu'elle adresse ce problème de notre vie qui peut vraiment nous paralyser, qui peut nous gâcher la vie, Seigneur, qui peut nous gâcher les moments présents parce qu'on vit toujours dans la peur de l'instant futur des peurs futures, d'événements futurs qui n'arriveront peut-être jamais. Seigneur, merci parce que tu veux nous toucher, tu veux nous sauver. Tu veux nous guérir de ce problème, Seigneur. Tu veux vraiment être glorifié par nos vies. C'est intéressant, Seigneur, que tu dises que c'est d'abord la foi. Il faut être sûr pour voir la bonté de l'Éternel. La foi précède la vision des choses. Les choses en quelles on croit qu'après les avoir vues, Seigneur, ce n'est pas de la foi et rien ne peut te plaire que notre foi. Fortifie notre foi. Aide-nous à espérer en toi, à ne pas vivre dans la crainte. Que ce soit la crainte des terroristes, la crainte de la maladie, la crainte d'un mauvais traitement, la crainte de perdre notre travail, la crainte de perdre un être cher. Libère-nous, Seigneur. Nous savons que pour certaines personnes, ça peut être un véritable problème qui pourrit leur existence, Seigneur. Seigneur, aide-nous à nous tourner vers toi et à recevoir cette paix, à recevoir ça, à vivre en ta présence, à recevoir tes promesses et à vivre dans ton amour, Seigneur. Nous prions ces choses par le nom sacré, précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.